On commence avec les titres. Et vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Selon une étude de l'Observatoire du fait religieux, les convictions religieuses s'affichent de plus en plus au travail. Les cas conflictuels, bien que minoritaires, sont en nette hausse. Compte rendu de cette étude tout à l'heure avec Bénédicte Robin. Le naufrage hier d'un bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants au large de l'Égypte. Et l'espoir est faible de retrouver ce matin des survivants. Récit d'Adrien Toffolet. La guerre en Syrie avec des raids aériens d'une intensité sans précédent depuis plusieurs mois la nuit dernière qui ont visé les quartiers d'Alep aux mains des rebelles. Pendant ce temps à New York, le secrétaire d'État américain John Kerry réclame l'immobilisation immédiate des avions russes et syriens. L'état d'urgence décrété dans la ville américaine de Charlotte en Caroline du Nord après une deuxième nuit de violence provoquée par la mort d'un noir tué par un policier. Et puis il y a plus d'un million de documents d'entreprises aux Bahamas qui ont été rendus publics ce matin par les journaux européens sous le nom de Bahamas. Et on y apprend notamment que l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, Nelly Kroes, chargée à ce titre de surveiller le monde des affaires, eh bien était directrice d'une société aux Bahamas pendant son mandat, et ce évidemment au mépris des règles européennes. L'invité de la séquence interview, ce sera Jérôme Fourquet, qui est directeur du département opinion publique à l'IFOP. Voilà pour les titres, Olivier Gesbert, la grande table.
Merci beaucoup Antoine, merci, on vous retrouve à midi et demi pour développer ces titres et ces informations. À tout de suite. Bonjour à tous. Comme un jeudi, on s'oxygène et on carbure. Controverse, qui sont les musulmans de France à partir de 12h55. Retour sur l'enquête panoramique et polémique réalisée par l'Institut Montaigne, think tank libéral, avec un islamologue et politologue, Rachid Benzine, qui publiera prochainement « Nour, pourquoi n'a-t-on rien vu venir ?» au Seuil. Mais d'abord, s'électriser avec le pape français de l'électro. Et avant qu'il ne parte sur les routes pour une tournée mondiale, le compositeur d'Electronica 1 et 2, mais aussi du nouvel habillage de notre sœur France Info, Jean-Michel Jarre, est notre invité. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivier Gesbert.
Tout est méga, giga, gigantesque avec lui. Plus de 80 millions de disques vendus, paraît-il. Tout faire tout seul. Et soudain, pas une, pas deux, pas une trentaine, mais une trentaine de collaborations avec Moby, Laurie Anderson, Massive Attack, John Carpenter, les Pet Shop Boys et même Cyndi Lauper. Ah oui, parce qu'après Oxygène, Equinox, Zoolook ou encore avec d'autres albums qui sont parus dans ces dernières années, il revient avec Electronica. Et là, il décide de voir tout en double Electronica 1. The Time Machine, qui est sorti il y a tout juste un an, suivi au printemps de Electronica 2, The Hurt of the Noise. 6 ans d'absence, c'est franchement long. Une tournée qui commence et qui durera peut-être tout autant, une quarantaine de dates en Europe avant de franchir l'Atlantique l'an prochain. Une tournée des festivals cet été, pour fêter ça et bien commencer, le Montreux Jazz Festival, Manchester ou encore Bayonne et Nîmes. Et ça a commencé comme ça, au Sonar, à Barcelone. Bonjour Jean-Michel Jarre.
Bonjour à vous.
On fait remonter les souvenirs.
Oui.
C'était bien ce Sonar à Barcelone.
Oui, c'était formidable. C'est un festival qui est intéressant parce qu'au-delà de la musique, c'est un festival qui agrège aujourd'hui un certain nombre de jeunes acteurs de la culture numérique. Et donc c'est en même temps un endroit, c'est une, un think tank, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un endroit qui est une sorte de moment de réflexion sur l'avenir du numérique, de notre rapport ambigu avec les technologies, etc., etc. Donc c'était, au-delà du concert, aussi un très bon moment.
De notre rapport et de votre rapport ambigu, on va en parler. Pionnier électro, pop star de la démesure, mégalo, vous l'êtes, Jean-Michel Jarre?
Non, je sais que ça c'est quelque chose qui a pu revenir à certains moments dans ma vie, mais il se trouve que vous parliez d'électronica à l'instant. Je commence par un projet qui était vraiment un petit projet qui était de collaborer avec des gens de réunir autour de moi quelques artistes qui sont des sources d'inspiration pour moi, qui l'ont toujours été, qui sont liés directement ou indirectement à la musique électronique. Et puis les gens ont pas répondu tout de suite, et puis donc j'ai lancé dans invitations, et puis finalement tout le monde a dit oui, et je me suis retrouvé avec 30 collaborations
et
avec
faire un double album.
Et de faire un double album, exactement.
Mais pourquoi vous avez quand même globalement toujours ce besoin de tout voir en grand?
Mais c'est pas du tout le cas. J'ai fait des je pense que en ce qui concerne les concerts, c'est des propositions qu'on m'a faites. Donc comme un sale gosse, quand on vous propose de faire un concert aux Pyramides ou ailleurs, bah on dit pas non.
C'est tout simple.
Mais en fait, non, c'est pas simple du tout. Je veux dire que je pense que l'échelle... je me l'explique pas, d'ailleurs.
Mais vous en rêvez parfois de quelque chose de plus intimiste, de vous...
Mais je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait souvent. J'ai fait les tournées dans des petites salles de théâtre, dans des opéras, ou dans des choses, ou des concerts beaucoup plus intimes. Je l'ai fait aussi.
Et la tournée, c'est pas les mêmes sensations du tout.
C'est... Finalement, vous savez, de faire un concert, d'être sur scène, et devant un public, c'est au fond une histoire de chimie entre deux entités, qui est le public et la scène. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, qu'on soit devant 30 personnes, 300 personnes ou 100 000 personnes.
Electronica, est-ce que c'est pour vous une anthologie musicale, un témoignage un peu de toutes ces époques que vous avez traversées, ou surtout que la musique électro a traversées?
Non, j'aurais pas cette prétention. Ça venait plutôt d'une envie et d'un choix très subjectif des gens qui m'ont inspiré, qui sont des sources d'inspiration pour moi, qui sont liés, comme je le disais à l'instant, directement ou indirectement à la scène, à la musique électronique, et qui couvrent au fond depuis que j'ai commencé 3 ou 4 générations. Et j'avais envie, j'étais parti avec 2 dogmes sur ce projet. L'un, c'était de rencontrer les gens physiquement, et à une époque où beaucoup de gens envoient des fichiers à travers Internet à des gens qui ne parleront pas et qui ne rencontreront pas. L'idée était vraiment de partager un moment créatif ensemble. Et le deuxième, c'était aussi de composer, avant de les rencontrer, un morceau, une maquette, en fonction du fantasme ou de l'idée que j'avais des gens avec qui j'allais travailler, pour au moins qu'on parte de quelque chose. Et ça a été pour moi vraiment un voyage initiatique, je dirais, où j'ai appris beaucoup de choses avec des gens qui ont tous en commun cette passion du son, un peu des explorateurs du son, que ce soit Christophe ou Lang Lang ou Massive Attack ou Laurie Anderson ou tous les gens que vous avez cités. Et puis en même temps le fait aussi que ce sont des gens qui sont instantanément reconnaissables et qui sont probablement aussi un petit peu en dehors. C'est-à-dire que si on prend aussi bien Moby que R, que Rhône, que Massive Attack ou Pet Shop Boys ou autres, sont tous des gens qui finalement tracent leur chemin un peu en dehors des sentiers battus, et je me suis rapproché d'eux instinctivement, mais ça me plaît.
Cette machine à remonter le temps, The Time Machine, pour reprendre le sous-titre du premier album d'Electronica, elle remonte jusqu'à où, jusqu'à quand, jusqu'au début de la musique électronique?
Vous savez, la machine, une Time Machine, c'est pas seulement une machine à remonter le temps, c'est une machine à explorer, pour explorer le temps. Donc on peut aller dans un sens ou dans un autre. C'était pas l'idée nécessairement de remonter nécessairement seulement vers le passé, mais pour répondre à votre question, la musique électronique, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle n'a rien à voir avec les États-Unis. Elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. Elle vient d'Europe continentale. Elle vient notamment d'ici, de cette maison, la maison de la radio et d'Allemagne, de France et d'Allemagne. Et la musique électronique doit beaucoup au service public européen, d'ailleurs, puisque tous les premiers studios de musique électronique ou électroacoustique sont nés dans les murs des services publics européens, notamment de la France et de l'Allemagne. Et
avec le groupe de recherche musicale,
oui,
notamment
exactement, le GRM,
le groupe de recherche
musicale.
Et vous avez fricoté avec eux au tournant des années 70.
Hein. Oui, je suis un petit peu un enfant du service public, moi-même, parce que j'ai beaucoup de souvenirs ici avec Pierre Schaeffer, qui est vraiment un des fondateurs de la musique électronique et électroacoustique.
Et Pierre Schaeffer savait parler de machines.
Oui. J'ai une image de marque de musicien, on se souvient de ça, bon, sous prétexte que j'ai été le premier en 48 à bricoler avec des tourne-disques. Moi, j'aime pas du tout ça. Parce que n'importe qui en aurait fait autant, probablement, il y aurait toujours un bricoleur dans un studio qui aurait fait tourner des tourne-disques. Et si j'ai un certain respect pour ma recherche, c'est parce que, à partir de cette manipulation des machines, je me suis posé, je dois dire, les vraies questions en disant, est-ce que, avec les machines, on découvre forcément des langages ? Bon. Et je dirais, est-ce qu'avec les grosses machines à communiquer, par exemple, la radio-télévision, est-ce qu'on trouve si facilement la communication sociale ? Est-ce qu'avec l'informatique et les ordinateurs, on va trouver si facilement une amélioration des relations économiques ? Autrement dit, qui précède les machines, qui leur donne leur programme après les avoir inventées ?
Pierre Schaeffer, Jean-Michel Jarre, il savait parler aux machines et il savait parler des machines. Vous leur dites quoi à vos machines ?
Alors,
nous racontez quoi ?
Un petit commentaire. Pierre Schaeffer avait la modestie bougonne. C'est-à-dire qu'il avait tendance à dévaloriser le travail extraordinaire de défrichage qu'il a fait. Et je veux dire que tout le monde lui doit quelque chose. C'est quelqu'un qui a profondément changé la manière dont on fait de la musique dans le monde. C'est vraiment un vrai défricheur et un vrai pionnier. Je dirais que son analyse aujourd'hui pourrait peut-être être un tout petit peu revue ou même réévaluée avec le fait que la relation avec les machines, je pense que aujourd'hui ça veut pas dire grand-chose d'ailleurs les machines. Je veux dire que si on mettait il y a quelques années un piano à queue dans une au milieu de la forêt amazonienne, je pense que les gens à l'époque auraient pu se penser à un vaisseau spatial qu'à un instrument de musique, et donc tout ça est culturel. Mais vous savez, j'ai fait des collaborations avec beaucoup de musiciens, c'est aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, les prochaines collaborations se feront avec des machines. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, que des machines soient capables de faire des films, des livres et de la musique. Ça peut être effrayant aujourd'hui, mais pas nécessairement à partir du moment où c'est nous qui les inventons quand même, ces machines.
Et c'est intéressant de se demander justement, dans ce joli mot de postérité, si, je ne sais pas, si vous vous posez cette question parfois, comment les générations à venir regarderont votre musique, vos expérimentations, la manière dont vous l'avez fait parler cette musique, non ?
Je pense que c'est pas si important que ça. Je pense que ce qui est important, je pense que quand on fait un film, un tableau, une musique, un roman, ça vous appartient pas, ça vous appartient plus après. Et donc, du coup, la manière dont les...
Peu importe comment ce sera relu.
Oui, je pense que c'est la responsabilité des gens qui le prendront, l'accepteront, le rejetteront. Je pense que c'est une arrogance dangereuse d'être obsédé par la postérité.
Alors vous racontez souvent que le boulot de compositeur, musicien, compositeur de musique électronique est assez solitaire, somme toute. Là, vous vous êtes entouré d'une trentaine de personnes, il y a eu une trentaine de collaborations, et parmi elles, il y a eu cette collaboration avec R. Ils étaient bluffés en fait de pouvoir travailler avec vous. Ils le racontent. Ils disent qu'ils avaient même des photos de votre matos, pas de vous, hein, de votre matos dans leur chambre quand ils étaient gamins. Et on va écouter le résultat de cette collaboration. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent de cette collaboration, nos amis de R dans Trax Mag? Il faut quand même que je lise cet extrait d'interview parce que ça dit tout de cet univers, de cette bulle dans laquelle vous vivez, vous, les électromènes. Il y a dans cette loupe de bande magnétique qui commence le morceau, la fameuse boucle de Jean-Michel, puis des nappes de synthé éminents. Ça, c'est sa signature à lui. À partir de là, il y a du Memory Moog, du piano, du Prophète VS. Il y a nos voix qui font les chœurs et le chœur au vocodeur. Tous les rythmiques du morceau sonnent très jarre avec un shuffle si particulier. Il y a aussi un synthé MS-20 de Korg et Jean-Michel a rajouté aussi du Theremin. Et à la fin du titre, il y a un effet inspiré du Baby, You Are a Rich Man des Beatles.
Il n'y a rien à ajouter.
Ça traduit bien l'intention ?
Totalement.
Bon, bah c'est...
Totalement. Vous l'avez très bien résumé.
Jean-Michel Jarre, c'est aussi votre temps que vous remontez quand même un peu à travers ces albums. C'était important de réussir pour vous son retour. Vous l'avez rêvé comment ? Il y a quelque chose encore pour vous à prouver quand on entend comment des personnes comme les gars du groupe R parlent de vous comme un espèce de dieu vivant.
Je pense que, vous savez, la musique, c'est une addiction. Je pense qu'on fait, comme dit Pierre Soulages, c'est ce que vous faites qui vous apprend où vous allez. Et en fait, c'est ça, je pense qu'on a tous, enfin peut-être pas tous, mais un certain nombre d'entre nous, l'idée quelque part d'un morceau idéal, ou d'un film idéal, ou d'un livre idéal. Et je pense que, un peu comme un mirage qu'on poursuit, on, de manière un peu obsessionnelle, on essaye de se rapprocher de cet idéal. Et donc, notre trajet, où c'est un mélange de frustration et d'espoir, la frustration de ce qu'on a fait, dont on n'est pas vraiment satisfait, l'espoir que la prochaine fois, ça sera peut-être moins pire ou mieux.
La musique organique, vous en dites que c'est une musique, la musique organique électronique, vous en dites justement que c'est une musique organique et sociale. Quelle société elle reflète pour vous aujourd'hui?
Je pense qu'il y a, dans tous les mouvements musicaux historiquement, il y a toujours eu deux côtés, le côté hédoniste, c'est-à-dire le fait d'écouter la musique par plaisir, ou dans le cas de l'électro, d'aller danser jusqu'au bout de la nuit, et puis il y a son contexte social ou politique forcément, puisque n'importe quel mouvement musical important est nécessairement le reflet de la société dans laquelle ce mouvement s'exprime. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens de l'électro, de la musique électronique, sont forcément les plus proches de tout le bouleversement technologique qu'apporte Internet, par exemple, puisque c'est un outil quotidien, et peuvent donc justement rendre compte, d'une certaine manière, ou questionner l'ambiguïté de cette technologie. Le fait, par exemple, qu'on ait le monde dans sa poche à travers son smartphone, et puis de l'autre côté, qu'on sente bien qu'on est espionné continuellement par le monde extérieur, que les géants d'Internet posent un vrai problème pour tous les gens qui sont ici, d'ailleurs, c'est-à-dire les gens qui créent, qui inventent. C'est-à-dire que les industries créatives n'ont jamais rapporté autant d'argent, et les auteurs qui sont au noyau de cette activité n'en ont jamais eu aussi peu. C'est vrai pour les journalistes, pour les écrivains, pour les photographes, pour les cinéastes, pour les musiciens. Donc on voit bien que cette technologie pose un certain nombre de problèmes et qu'il va falloir inventer de nouveaux codes pour pouvoir justement faire en sorte que l'équilibre se fasse entre la technologie galopante d'un côté et puis nos systèmes humains qui sont plus lents à se développer.
C'est pour ça que vous avez voulu cette collaboration avec Edward Snowden, que vous avez rencontré. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous appelez à soutenir en relayant la pétition qui a été lancée la semaine dernière à New York pour demander à Barack Obama de lui accorder son pardon. Rappelons qu'Edward Snowden, lanceur d'alerte, est exilé en Russie, mais que son visa ne va pas tarder à expirer. Beaucoup attendent aujourd'hui un geste du président américain.
Oui, Edward Snowden, quand j'ai entendu parler de lui, m'a beaucoup fait penser à ma mère, qui était une grande figure dans la résistance et qui m'a appris, qui s'est engagée dès 1941 et qui me racontait qu'effectivement à l'époque les résistants étaient considérés comme des fauteurs de troubles et même par certains comme des traîtres ou des terroristes, et que en fait finalement les progrès sociaux ou politiques se sont toujours faits contre le pouvoir en place, contre la loi en place. C'est vrai pour l'abolition de l'esclavage, c'est vrai pour la fin de la prohibition, pour le droit de vote des femmes, pour le mariage pour tous, et c'est vrai aussi pour notre rapport à la technologie. Je pense que Edward Snowden est aujourd'hui incarne une forme de héros moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui va pour le bien commun se mettre en danger, mettre sa vie en danger, mettre sa sécurité en danger pour essayer justement d'améliorer les choses dans son pays. C'est pas quelqu'un qui travaille contre son pays, mais pour son pays. Et je rappellerai brièvement qu'il faut il ne faut pas oublier, et que les Américains n'oublient pas non plus, que l'Amérique a été fondée sur un acte de résistance qui était considéré comme un acte de trahison par le roi à l'époque.
Time is running out, c'est comme ça que se conclut sur ces mots la pétition. Le temps passe aussi malheureusement, Jean-Michel Jarre, dans notre studio. Un mot quand même de cet habillage que vous avez réalisé pour France Info, télé et radio en cette rentrée. C'est un nouvel exercice auquel vous vous êtes prêté, fini la mélodie classique qu'on avait l'habitude d'entendre de France Info. On ne vous a pas d'ailleurs demandé de concevoir quelque chose en partant de l'existant. On vous a visiblement donné une carte blanche. Il y a un thème. Une sorte de bip métronomique, et c'est assez doux, c'est très pluriel, et l'ensemble, vous avez choisi de l'appeler Hexagone.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Alors cet habillage, il a aussi été réalisé dans votre studio à Bougival, où il paraît qu'on retrouve tous les synthés du monde,
oui, absolument.
Toutes les époques.
Absolument,
c'était
un peu un défi d'abord de réunir les deux peuplades de la radio et de la télévision, qui sont comme chacun sait des peuplades qui sont assez différentes.
Qui se regardent un peu de travers, oui.
Voilà, pas nécessairement. Et puis donc j'étais une sorte de médiateur émotionnel dans cette histoire. Et puis surtout le fait aussi de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de concevoir une musique qui puisse convenir aussi aux médias de la radio et aux médias de la télévision, qui sont différents, et puis aussi de ne pas...
Qui puisse accompagner tout type d'informations.
Voilà, et qui ne soit pas un pléonasme par rapport à la gravité de certaines informations que vous diffusez, ou que les chaînes d'infos diffusent, et qu'elles ne soient pas non plus anxiogènes ou clivantes. Et donc, c'est un exercice intéressant à faire, et aussi très amusant.
Vous y reviendrez ?
Oui, bien sûr, j'espère, si on fait appel à moi.
Alors, on va voir ce que vous pensez de notre habillage. C'est l'habillage de France Culture.
C'est très bien, parce que comme c'est différent, justement, nous sommes sur des terrains assez différents, mais je l'aime beaucoup. Je le connaissais, évidemment, avant d'entrer dans ce studio.
Comment vous l'analysez ?
Je pense qu'il a justement quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il a un côté effronté, poétique et assez doux aussi, et avec plein de petits points d'interrogation comme ça. Je pense que c'est ce que doit être, c'est ce qu'est l'ADN de France Culture pour moi, et avec aussi en même temps des points de suspension, je dirais. Donc il y a une ponctuation intéressante.
Redites-moi les deux adjectifs que vous avez employés, qu'on essaye de
suivre.
On va remonter la time machine. Jean-Michel Jarre, vous avez encore un dernier projet en cours pour l'instant, vous devez en avoir beaucoup d'autres. Avec Oxygène, 40 ans après, en réécoutant cet album, vous vous dites qu'il a sacrément besoin d'être dépoussiéré, modernisé, ou qu'au contraire, il a plutôt bien traversé les années, qu'Oxygène est finalement, somme toute, assez vintage et qui tient bien la route comme ça.
Non, je pense qu'il y a une forme d'intemporalité dans la musique électronique qui est liée au fait que la musique électronique, est, comme je le disais tout à l'heure, n'a rien à voir avec le format pop américain, mais est lié à notre héritage de la musique classique, c'est-à-dire ces longues plages instrumentales qui finalement s'échappent du format pop et du format de la chanson de 3 minutes. Donc je crois que effectivement cette intemporalité là peut venir de ça. Et puis il y a une autre chose aussi dans la musique électro ou les musiques actuelles, ce qui date beaucoup souvent, c'est le son de la rythmique. C'est le son de tout ce qui est basse, de percussions, etc. Et Oxygène a cette caractéristique de ne pas s'appuyer sur une rythmique trop forte, et donc du coup d'être, je pense, relativement intemporel. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un fait.
Et donc 40 ans après, vous allez retravailler dessus ?
Moi j'aime pas trop nécessairement les anniversaires, mais il se trouve que ce sont des bons prétextes pour pouvoir se repencher sur son travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis surtout plutôt concentré sur ma tournée que je commence la semaine prochaine
qui va vous amener très loin.
J'étais un des premiers à intégrer pas mal d'éléments visuels dans les concerts. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Et là, j'ai essayé de travailler et de créer avec l'équipe qui est avec moi une scénographie assez différente pour un concert qui, je pense, va des concerts qui vont être assez différents de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, on est tous assez excités, mais un peu angoissés quand même aussi.
Jean-Michel Jarre, François V, notre partenaire du jeudi, vient nous rejoindre, partenaire du Parisien Magazine pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour François.
Bonjour.
Ce midi, le phénomène des biopics et le culte Springsteen.
Et oui, absolument. Alors, les biopics, moi je voudrais vous dire d'abord que le terme peut agacer parce que, voilà, biographical motion picture, ça fait un peu... On pourrait dire en français les films biographiques, les biographies filmées, mais ça sonne un peu aussi un poil suranné. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est que ce genre cinématographique, développé dès les années 30 par la Warner, connaît actuellement un engouement étonnant et des deux côtés de l'Atlantique. Et avec l'enquête que nous avons fait pour le magazine, qui paraît demain, nous avançons une série d'explications. Alors à la base, il y a l'attrait du public pour le destin des gens célèbres, ça c'est clair, ils font rêver, ils intriguent. Puis il y a eu l'énorme succès de La Môme en 2007 qui a tout fait basculer. Avant, on faisait peu de biopics dans l'Hexagone et maintenant, on n'arrête plus. Ensuite, ces biographies reposent souvent sur l'engagement d'un producteur. Alors lui, il dispose de tout avec ça pour convaincre les financiers, attirer des acteurs, des réalisateurs, appâter les distributeurs. Parce que quand il tient son histoire, le producteur, il tient son film. Dans cette industrie, aujourd'hui, on est peu de choses si on ne dispose pas du pitch. Alors, ça donne quoi? Ça donne, je vais vous raconter l'histoire du plus grand couturier de tous les temps. Oh là là, formidable. Ou alors, qui était véritablement l'homme qui a révolutionné nos vies avec le Macintosh? Bon, on achète. La promesse est belle. Reste à l'incarner. Donc, on a Pierre Niney, Gaspard Ulliel, Ashton Kutcher ou Michael Fassbender. Et le tour est joué. En effet, parce que qui dit grand destin dit gros défi pour le comédien, les postulants se bousculent, à la clé se profile un César, un Oscar si on est aux États-Unis. Après avoir trouvé réalisateur et scénariste, on a l'impression que c'est une simple formalité. Et alors, en cette rentrée, vous avez vu, on croule sous les biopics, donc vient de sortir Ces années moi, et puis arrive le pape François, et puis l'Odyssée consacrée au commandant Cousteau, et bientôt Snowden, notre ami Snowden, justement.
Et puis bientôt un biopic sur le pape de l'électro français. Maintenant, c'est ça qui est terrible, il faut presque écrire nos vies en pensant au biopic qu'on en fera plus tard, Jean-Michel Jarre.
Dans le biopic, il y a un côté bio et un côté pic.
Oui. On va se consacrer au bio. Est-ce que vous avez quand même récemment, François, vu un film à nous recommander, un peu plus particulièrement biopic ou pas?
Il est un peu biopic quand même à mes yeux. C'est un film qui s'appelle La danseuse de Stéphanie Di Giusto qui a été sélectionnée à Cannes dans la section Un certain regard. Et dans ce long métrage, moi j'ai découvert le parcours incroyable de la danseuse et chorégraphe américaine, Marie-Louise Fuller, dite Louis Fuller. Et c'est la chanteuse rock Soko qui l'incarne. On suit donc l'ascension de cette artiste qui est bouleversante, envoûtée puis snobée par Isadora Duncan. L'histoire est poignante, les images sont sublimes. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Après, c'est pas vraiment un biopic tel que je vous l'ai expliqué parce que c'est l'idée d'une réalisatrice à la base. Et Alain Attal, le producteur, a dû prendre de gros risques pour financer le film.
Un petit mot quand même de Springsteen avant de se quitter. Qu'est-ce qui lui arrive?
Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il nous avait fait ses concerts exceptionnels à Bercy en juillet. Et puis là, arrive l'autobiographie qui doit sortir aux États-Unis le 27 septembre chez Simon & Schuster. Et on doit avoir aussi chez Albin Michel sa traduction en français. Et l'objectif de Springsteen, c'est qu'on se reconnaisse dans ce livre, comme on se reconnaît déjà dans ses chansons. Et puis, histoire de nous faire patienter, on peut découvrir depuis quelques jours un disque qui retrace toute sa carrière. C'est une compilation intitulée « Chapter and Verse ». Alors, c'est une belle occasion pour moi de savourer égoïstement ces ballades qui sont le pan que je préfère dans son art. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fatigue un peu, ce culte idolâtre que rendent à cette bête de scène ces fans sexagénaires.
J'ai pas de culte idolâtre,
hein, on pas s'arrête. Du tout, mais voilà, quand on était le 13 juillet par exemple à Bercy, il y a un couple qui s'est présenté à lui afin de faire sa demande de mariage en direct. Et moi j'ai trouvé que c'était un peu too much.
Bon, pas de demande en mariage avec vous aujourd'hui François V, mais à lire, à retrouver dans le Parisien Magazine tout le week-end, il paraît, demain. Merci beaucoup, on vous retrouve jeudi prochain. Mille merci Jean-Michel Jarre, bonne tournée, bonne route.
Merci à vous, merci beaucoup.